Bonjour, vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 5 juin 1806, Louis Bonaparte devient roi de Hollande. Louis Bonaparte, frère cadet de Napoléon Ier, est un rêveur, un romantique. Sa santé est fragile, son tempérament est pacifiste, son ambition se limite au bonheur privé. Il est le frère docile qui répond gentiment aux attentes d'un aîné autoritaire. Napoléon, devenu premier consul, insiste pour qu'il épouse Hortense de Beauharnais, la fille de Joséphine. Or, les deux jeunes gens ont des sensibilités opposées, voire incompatibles. Cependant, le mariage est célébré en 1802. C'est un véritable fiasco. Il n'empêche, le couple engendre 3 fils, dont Louis-Napoléon, l'unique survivant, qui deviendra Napoléon III. En 1804, Napoléon est proclamé empereur. À 26 ans, Louis devient connétable de l'Empire. Le titre est avant tout honorifique et la fonction ennuyeuse. Rien de bien passionnant pour un mari malheureux qui préfère parader avec son régiment de dragons. Au début de l'année 1806, Napoléon installe sa famille sur différents trônes européens. Joseph, l'aîné des Bonaparte, devient roi de Naples et des deux Siciles. Joachim Murat, l'époux de Caroline Bonaparte, est fait grand-duc de Bergues et de Clèves. Jérôme, le plus jeune des frères Bonaparte, devient en 1807 roi de Westphalie. Pour Louis, Napoléon crée un royaume de toutes pièces dans l'ancienne République des Provinces Unies. Cette initiative politique, désignée par l'expression « système fédératif », vise à constituer des monarchies et principautés dépendantes de la France, dont l'objectif principal est l'anéantissement de la puissance britannique. Pour ce faire, l'empereur compte sur la fidélité et l'obéissance des membres de sa famille. Louis ne tient pas vraiment à la Hollande. Il préfère une principauté italienne où le climat convient mieux à sa santé défaillante. Une fois encore, il obéit aux ordres de son frère. À Paris, le 5 juin 1806, il est proclamé roi de Hollande en présence d'une délégation batave. Il part alors pour La Haye. Une fois installé sur son trône, il veille au bonheur de ses sujets et à la prospérité de son pays. Il veut mériter la confiance et l'amour des Hollandais. Napoléon exige du nouveau roi de Hollande des troupes pour renforcer la grande armée, une participation effective au blocus contre l'Angleterre et une contribution à la modernisation de la flotte française. Insensible aux promesses faites lors du traité de 1806 entre la France et la Hollande, qui prévoyait un accord commercial entre les deux pays alliés, et sourd aux appels à l'aide d'un jeune souverain confronté à un pays en faillite, Napoléon fulmine contre Louis, qui adopte le parti d'une nation de boutiquiers au lieu d'aider la France. Pour réformer la Hollande, Louis a un urgent besoin d'argent. Or, le blocus continental porte un coup mortel à une économie batave fondée sur le commerce. Louis pense l'organisation de son royaume. Il adapte la constitution au nouveau régime. Il souhaite greffer la monarchie sur la République et apprivoiser une nation fondamentalement républicaine et rebelle. Il se dit persuadé qu'une monarchie constitutionnelle peut tout aussi bien protéger les libertés qu'une république. Il œuvre à l'union des esprits et emploie dans le gouvernement tous les patriotes de talent. Orangistes, unitaristes, fédéralistes, modérés et radicaux, tous se retrouvent autour du souverain pour le redressement de la nation hollandaise. En décembre 1801, le prince d'Orange renonce à ses prérogatives et appelle ses partisans à reprendre leur place au sein de la patrie. Aussi, aristocrates et révolutionnaires hollandais achèvent ce que le régime antérieur a seulement esquissé,
car la politique bonapartiste n'est pas fondamentalement contraire aux idéaux des révolutionnaires, du moins en matière de centralisation administrative, fiscale et financière, mais aussi en ce qui concerne la codification civile et pénale ou encore l'instruction publique et l'égalité des cultes. Le roi se soucie ainsi d'accorder à tous leur Église et d'émanciper les Juifs. Enfant des Lumières, Louis en partage les idéaux de rationalisation, d'uniformité et de paix sociale et religieuse. Il entend bien conférer aux institutions nouvelles un caractère national, à savoir hollandais. Pas question de franciser son royaume. De là aussi son désir d'en parler la langue et d'en célébrer les grandes figures. Louis stimule l'industrie et l'artisanat, encourage les recherches sur la santé publique et s'inquiète de l'hygiène. Il déplace les abattoirs hors de la haie, il fait épurer les canaux et rehausser les digues. Il se veut un bon souverain, le roi des malheureux. En 1807, un bateau de poudre explose à Leyde, la ville universitaire du pays. 150 personnes y trouvent la mort. Le roi accourt aussitôt pour consoler les blessés et distribuer des secours. Il crée le premier fonds national consacré aux catastrophes. Ses déplacements à travers le pays sont légion, sa popularité est certaine. Elle conforte sa légitimité. La face sombre du règne tient à la soif de Louis pour l'ostentation. Pour lui, rien n'est trop beau ni trop cher. Sa représentation est des plus brillantes. Il change constamment de résidence et cherche en vain la demeure idéale dans un pays pauvre en édifices prestigieux. De La Haye, il part pour Utrecht, puis déménage à Amsterdam. Cette instabilité est perceptible jusque dans le gouvernement. Le roi aime changer de ministre et remanier les départements. Plus le temps passe, plus il devient capricieux, mais aussi solitaire. Hortense, son épouse, l'a quitté en 1807, à la mort de son premier fils. Les amis français sont rentrés en France. Ceux qui restent, Louis s'en méfie. Il voit en eux des espions de son frère. Tout a son grand dessein. L'empereur envisage en 1809 l'annexion pure et simple de la Hollande à la France. Cette idée fait rapidement son chemin. Au printemps 1810, il parvient à subtiliser à son frère la partie méridionale de son royaume, mais c'est encore insuffisant. L'as des tergiversations et du manque de collaboration de ce dernier, Napoléon envahit la Hollande en juin 1811. Aussitôt, Louis abdique au profit de son fils aîné et s'enfuit vers une destination inconnue. Jusqu'à sa mort en 1846, il ressasse ses souvenirs hollandais. Son exil lui permet de mettre à profit ses expériences et de revenir à ses anciens amours. En 1812, il publie un roman intitulé « Marie ou les Hollandaises » où il chante sa patrie d'adoption. 8 ans plus tard, il livre ses documents historiques sur le gouvernement de Hollande. C'est sûrement la période la plus heureuse de son existence. Nous retrouvons Historama dans un instant pour la chronique littéraire. Un jour, 3 livres, ce sera 4 exceptionnellement aujourd'hui. Chronique préparée par Emmanuel et que je vous présenterai avec grand plaisir. D'ici là, un détour par la chanson. C'est Michel Fugain qui nous accompagne aujourd'hui avec un titre de 1972. Attention, mesdames et messieurs, il est accompagné par le Big Bazar. Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire préparée par Emmanuel, qui est consacrée aujourd'hui à la Seconde Guerre mondiale, vue par la collection Terre de France aux presses de la Cité. Pour commencer, le choix d'Hespéris, c'est le tome 2 des sœurs Loubersac. Mike. Voici la suite de leurs aventures. Nous nous retrouvons en octobre 1939. Les hommes sont partis au front, la vie continue. La fière Hespérie, divorcée de Charles, se démène entre la gestion des terres familiales à Cazel et l'accueil de ses pensionnaires, mères célibataires. Quant à Roscly à Bordeaux, elle prend soin des réfugiés et le temps s'écoule ainsi jusqu'à la défaite de juin 1940. En 1942, lors de la nuit de Noël, un curieux visiteur se présente, fuyant l'antisémitisme et les rafles. Le choix d'Hespérie de Suzanne Gacheneau s'est publié dans la collection Terre de France aux éditions Presse de la Cité. La ceinture dorée de Pierre Petit, toujours aux Presses de la Cité, dans la collection Terre de France. Nous voici dans un village de Haute-Loire sous l'occupation. Samuel Grunberg disparaît entre Saint-Étienne et Langeac avec sa ceinture dans laquelle il dissimule une fortune en pièces d'or et diamants. Quelque temps avant, le train venant de Saint-Étienne est bloqué en gare de Fontbonne en raison d'une tempête de neige. Samuel fuit Lyon et les persécutions. Il confie sa fille Sarah à des religieuses et se cache en attendant de retrouver son passeur chez un couple de paysans. Se croyant en sécurité, il se déleste de sa ceinture, mais il n'y aura plus aucune trace de lui. En 1964, Sarah débarque à Fontbonne et débute ainsi l'intrigue de ce roman, La ceinture dorée. C'est signé Pierre Petit, c'est dans la collection Terre de France aux éditions Presse de la Cité. Enlacer le ciel et les nuages, voici trois destins de femmes de l'air. La pionnière convoyeuse et ses deux descendantes hôtesses de l'air. Elisa, la pionnière, a mis toute sa fougue au service des autres. Elle est convoyeuse de l'air, veillant ainsi sur les passagers malades. Et en 1945, elle doit ramener les déportés en France, découvrant ainsi la tragédie des camps. De sa liaison avec un photographe anglais naîtra Audrey. Puis viendra Lily, la fille d'Audrey, trois générations de femmes marquées par la passion de leur métier. Enlacer le ciel et les nuages de Karine Lebert, c'est dans la collection Terre de France, aux Presses de la Cité. Nous terminons cette chronique avec La fille d'Omaha Beach de Geneviève Sangère. C'est aux éditions Presses de la Cité, toujours dans la collection Terre de France à Caen. En juin 1945, Claire, orpheline, vit avec sa grand-mère. Sa mère est décédée et son père a été fusillé par les Allemands en tant que résistant. Son fiancé, Lucas, résistant lui-même, est mort en camp de concentration. Ses amis vont renouer avec la vie normale, l'une retrouvant son fiancé revenu du STO, mais pas Claire. En quittant une fête, elle découvre le chien de son fiancé décédé rentré dans une zone de déminage. Elle le suit, mais l'animal est fauché par une mine et elle doit rester immobile. C'est Joachim, un Allemand prisonnier spécialiste du déminage, qui vient la sauver. Il est un refusant, un des soldats de la Seconde Guerre mondiale qui, confrontés à la barbarie nazie, ont refusé d'y participer. La fille d'Omaha Beach de Geneviève Sangère, c'est dans la collection Terre de France aux éditions Presse de la Cité. Ainsi s'achève cette émission Historama. Merci à Thomas qui l'a réalisée. Et c'est en chanson avec toujours Michel Fugain, encore un titre de 1972. Il est accompagné par le Big Bazar, Une belle histoire. We'll be right back.